Danger Zone The Book, livre écrit par David Ornus, publié en mai 2022 aux éditions Ballant. Épisode 4. Été 1991, Phnom Penh, Cambodge, Mekong Évasion. À Serge Corrieras, dit El Gato, anarcho, photo, journalo, mercenaire. Nous atterrissons à Tan Son Nhut, 15 ans après l'évacuation américaine. À Saigon, la ville principale où les Marsouins tenaient leur garnison, nous sommes transportés dans un bus du gouvernement jusqu'à un hôtel où nous sommes sous surveillance. Je suis fasciné et attiré par la ville. Le soir, au bar de l'hôtel, je rencontre un Australien. Il me propose de la découvrir avec lui. Nous sortons par la porte des cuisines, et long un cycle au pouce, nous nous engageons dans la rue Katina, aujourd'hui rue Dong Khoi, pour nous enfoncer dans les ruelles enfumées. Les odeurs de soupe vietnamienne ou de canard laqué emplissent mes narines. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir vivre ça. Il fait chaud et moite. Je me saoule de ces odeurs de cardamome et de coriandre. Je m'abreuve de ces images. Je suis projeté dans mes lectures d'adolescent. Je suis dans une page des Centurions. C'est une sensation extraordinaire. Je ne sais pas si c'était très prudent. J'étais avec un homme que je ne connaissais pas. Nous aurions pu nous faire arrêter. Malgré tout, après un petit tour, nous rentrons sans encombre. Le lendemain, le vol pour Phnom Penh nous emmène au-dessus de l'aéroport de Po Chen Thong. À travers les hublots, j'aperçois une seule piste entourée de trous d'obus. Alors que l'avion entame sa descente pour se poser, je vois un homme nager dans un immense trou d'eau, couleur de boue. C'est un autre monde. Nous sommes attendus par l'équipe d'encadrement du chantier. Ils nous embarquent en voiture jusqu'à l'hôtel Renaxé, en face du Palais Royal. Sur le trajet, la route est jalonnée de flamboyants. Selon nos guides, sous chaque flamboyant repose le cadavre d'un intellectuel éliminé par les Khmers rouges. Dans la chaleur du mois d'août, malgré les difficultés matérielles, nous trimons pour retaper le pavillon de rafraîchissement de l'impératrice Eugénie, offert au prince Norodom au début du protectorat vers 1864. L'architecture, qui ressemble au monument d'Eiffel, est constituée principalement de poteaux en fonte qu'il faut gratter et nettoyer, de larges vitraux qu'il faut restaurer. Nous travaillons avec l'atelier Vitrail Saint-Georges à Lyon. Des spécialistes de chaque corps de métier sont là pour nous aider dans les tâches que nous ne maîtrisons pas. Peinture, plâtre, ciment, carrelage, enduit, vitrail. En un peu plus d'un mois, sous la houlette de Didier Réplin, nous avons réhabilité le pavillon. Au son des mélopées traditionnelles, le ballet des Apsaras royales répète très souvent à côté du chantier. C'est un spectacle fascinant. Le soir, nous allons dîner dans des petits bouibouis cambodgiens, des frites locales, du poulet à la citronnelle, du riz loklak, des bananes, des petits beignets dans lesquels nous découvrons parfois des charançons. À Phnom Penh, au début des années 90, il n'y a presque pas de voitures, peu de motos, beaucoup de cyclos, partout. Au marché, dans les rues, des femmes, des enfants, des vieillards, estropiés par les mines, exhibent leurs moignons contre quelques riels, la monnaie locale. La ville est quasi exclusivement cambodgienne, presque aucun Européen expatrié ou touriste. Les Khmers rouges ont sévi jusqu'en 1979 et contrôleraient encore des zones auxquelles nous ne pourrons accéder. Parfois, pour décompresser, nous allons danser sur des musiques khmères et des hits du moment dans les nightclubs locaux comme le Kong Kea. Ce paquebot sur le Mekong est arrimé au quai Norodom. On a l'impression d'être dans un film sur la guerre du Vietnam. La musique des années 70, Suzy Q, comme dans Apocalypse Now, de la fumée de cigarettes partout. C'est complètement hallucinant. Comme il n'y a pas d'éclairage urbain, il fait très noir dès 18h. Les retours en cyclo vers minuit sont parfois cocasses. Les nombreux nids de poules nous obligent à nous accrocher. Nous rentrons rarement plus tard. Le rythme du chantier est éprouvant. Sur le chantier, chaque jeune volontaire est en binôme avec un orphelin de l'association Les Orphelins d'Angkor. Je travaille avec Rom Sopat, avec qui j'ai correspondu un temps par lettre, puisqu'on ne pouvait pas utiliser le fax et bien sûr pas encore d'email. À l'occasion du 15 août, nous avons quelques jours de repos pour remonter le Tonlé Sap en bateau, afin de visiter les temples d'Angkor. On se croirait sur le Karaboudjan, de Jean, dans le crabe aux pinces d'or. Comme je sortais de ma préparation militaire supérieure, Didier Réplin me dit « Toi qui es encore un peu mili, tu vas gérer les relations avec l'escorte. » Elle est composée d'une section armée, AK-47, RPG, fusil mitrailleur. Le jeune capitaine qui la commande, Sambatpala, parle très bien français. Je traite avec lui pendant tout le voyage. Une amitié sincère va s'instaurer entre nous. Elle dure toujours grâce à Internet. Je lui remets tous les jours la paye de l'escorte en argent liquide avec des liasses de 5 cm d'épaisseur. J'utilise mes compétences apprises lors de ma récente préparation militaire supérieure pour m'amuser à démonter les calaches et à faire l'inspection des armes. Sur le toit du poste de pilotage du cargo, trône une M60 sur son trépied, bande engagée. « Contre les pirates, me dit pas là, hilar. » Après le caraboudjan, c'est coq en stock. Si le début de ce chapitre vous a plu, je vous invite à vous procurer le livre sur les plateformes de vente en ligne ou chez votre libraire et à ne pas hésiter à me faire un retour sur mes réseaux sociaux et à poster des commentaires sur les plateformes Fnac et Amazon pour optimiser le référencement de cet ouvrage dont je rappelle l'intégralité des droits d'auteur sont reversés au profit des blessés, veuves et orphelins de guerre. Merci.